Autobiographie. Paris, lundi 16 novembre 1885. Mon cher Verlaine, je suis en retard avec vous, parce que j'ai recherché ce que j'avais prêté, un peu de côté et d'autre, au diable, de l'œuvre inédite de Villiers, ci joint le presque rien que je possède. Mais des renseignements précis sur ce cher et vieux fugace, je n'en ai pas. Son adresse même, je l'ignore. Nos deux mains se retrouvent l'une dans l'autre, comme desserrées de la veille, au détour d'une rue, tous les ans, parce qu'il existe un Dieu. À part cela, il serait exact au rendez-vous et le jour où, pour les hommes d'aujourd'hui, aussi bien que pour les poètes maudits, vous voudrez, allant mieux, le rencontrer chez Vanier, avec qui il va être en affaire pour la publication d'Axel, nul doute, je le connais, aucun doute, qu'il ne soit là à l'heure dite. Littérairement, personne de plus ponctuel que lui. C'est donc à Vanier à obtenir d'abord son adresse de M. Darsens, qu'il a jusqu'ici représenté, près de cet éditeur gracieux. Si rien de tout cela n'aboutissait, un jour, un mercredi notamment, j'irai vous trouver à la tombée de la nuit. Et en causant, il nous viendrait à l'un comme à l'autre des détails biographiques qui m'échappent aujourd'hui. Pas l'état civil, par exemple, date, etc., que seul connaît l'homme en cause. Je passe à moi. Oui, né à Paris, le 18 mars 1842, dans la rue appelée aujourd'hui Passage La Ferrière. Mes familles paternelles et maternelles présentaient, depuis la Révolution, une suite ininterrompue de fonctionnaires dans l'administration de l'enregistrement. Et bien qu'ils y eussent occupé presque toujours de hauts emplois, j'ai esquivé cette carrière à laquelle on me destina dès les langes. Je retrouve trace du goût de tenir une plume pour autre chose qu'enregistrer des actes chez plusieurs de mes ascendants. L'un, avant la création de l'enregistrement sans doute, fut syndic des libraires sous Louis XVI, et son nom m'est apparu au bas du privilège du roi placé en tête de l'édition originale française du Vatek de Beckford, que j'ai réimprimé. Un autre écrivait des vers badins dans les almanachs des muses et les étrennes aux dames. J'ai connu enfant, dans le vieil intérieur de bourgeoisie parisienne familiale, M. Magnien, un arrière-petit-cousin, qui avait publié un volume romantique à toute crinière appelée Ange ou Démon, lequel reparaît quelquefois côté chair dans les catalogues de bouquinistes que je reçois. Je disais famille parisienne tout à l'heure parce qu'on a toujours habité Paris. Mais les origines sont bourguignonnes, lorraines, aussi et même hollandaises. J'ai perdu tout enfant, à 7 ans. Ma mère, adorée d'une grand-mère, qui m'éleva d'abord. Puis j'ai traversé bien des pensions et lycées. Dame Lamartinienne, avec un secret désir de remplacer, un jour, Béranger, parce que je l'avais rencontré dans une maison amie. Il paraît que c'était trop compliqué pour être mis à exécution, mais j'ai longtemps essayé dans 100 petits cahiers de vers qui m'ont toujours été confisqués, si j'ai bonne mémoire. Il n'y avait pas, vous le savez, pour un poète à vivre de son art, même en la baissant de plusieurs crans, quand je suis entré dans la vie, et je ne l'ai jamais regretté. Ayant appris l'anglais simplement pour mieux lire Poe, je suis parti à 20 ans en Angleterre, afin de fuir principalement, mais aussi pour parler la langue et l'enseigner dans un coin, tranquille et sans autre gagne-pain obligé. Je m'étais marié et cela pressait. Aujourd'hui, voilà plus de 20 ans et malgré la perte de tant d'heures, je crois, avec tristesse, que j'ai bien fait. C'est que, à part les morceaux de prose et les vers de ma jeunesse et la suite qui y faisaient écho, publiés un peu partout, chaque fois que paraissaient les premiers numéros d'une revue littéraire, j'ai toujours rêvé et tenté autre chose, avec une patience d'alchimiste, prête à y sacrifier toute vanité et toute satisfaction, comme on brûlait jadis son mobilier et les poutres de son toit pour alimenter les fourneaux du grand œuvre. Quoi, c'est difficile à dire, un livre tout bonnement, en main tome, un livre qui soit un livre, architectural et prémédité, et non à un recueil des inspirations de hasard, fussent-elles merveilleuses. J'irai plus loin, je dirais le livre, persuadé qu'au fond, il n'y en a qu'un, tenté à son insu par quiconque a écrit, même les génies, l'explication orphique de la terre qui est le seul devoir du poète et le jeu littéraire par excellence, car le rythme même du livre, alors impersonnel et vivant, jusque dans sa pagination, se juxtapose aux équations de ce rêve ou ode. Voilà l'aveu de mon vice, mis à nu, cher ami, que mille fois j'ai rejeté, l'esprit meurtri ou là, mais cela me possède, et je réussirai peut-être. Non pas à faire cet ouvrage dans son ensemble, il faudrait être je ne sais qui pour cela, mais à en montrer un fragment d'exécuté, à en faire scintiller par une place l'authenticité glorieuse, en indiquant le reste tout entier auquel ne suffit pas une vie. Prouver par les portions faites que ce livre existe et que j'ai connu ce que je n'aurais pu accomplir. Rien de si simple alors que je n'ai pas eu hâte de recueillir les mille bribes connues qui m'ont, de temps à autre, attiré la bienveillance de charmants et excellents esprits, vous le premier. Tout cela n'avait d'autre valeur momentanée pour moi que de m'entretenir la main, et quelque réussi que puisse être quelquefois un des morceaux, à eux tous, c'est bien juste s'ils composent un album, mais pas un livre. Il est possible cependant que l'éditeur Vanier m'arrache ses lambeaux, mais je ne les collerai sur des pages que comme on fait une collection de chiffons d'étoffes séculaires ou précieuses. Avec ce mot condamnatoire d'album dans le titre, album de vers et de prose, je ne sais pas. Et cela contiendra plusieurs séries, pourra même aller indéfiniment. À côté de mon travail personnel qui, je crois, sera anonyme, le texte y parlant de lui-même et sans voix d'auteur. Ces vers, ces poèmes en prose, outre les revues littéraires, on peut les trouver, ou pas, dans les publications de luxe, épuisées, comme le Vatek, le Corbeau ou le Faune. J'ai dû faire, dans des moments de gêne, ou pour acheter de ruineaux canaux, des besognes propres, et voilà tout. Comme dieux antiques, ou les mots anglais, dont il sied de ne pas parler. Mais à part cela, les concessions aux nécessités comme aux plaisirs n'ont pas été fréquentes. Si à un moment, pourtant, désespérant du despotique bouquin lâché de moi-même, j'ai, après quelques articles colportés d'ici et de là, tenté de rédiger tout seul, toilettes, bijoux, mobilier, jusqu'au théâtre et au menu de dîner, un journal, la dernière mode, dont les 8 ou 10 numéros parus servent encore, quand je les dévais de leur poussière, à me faire longtemps rêver. Au fond, je considère l'époque contemporaine comme un interrègne pour le poète, qui n'a point à s'y mêler. Elle est trop en désuétude et en effervescence préparatoire pour qu'il ait autre chose à faire qu'à travailler avec mystère, en vue de plus tard ou de jamais et de temps en temps à envoyer au vivant sa carte de visite, stance ou sonnet, pour n'être point lapidé d'eux s'ils le soupçonnaient de savoir qu'ils n'ont pas lieu. La solitude accompagne nécessairement cette espèce d'attitude. Et à part mon chemin de la maison, c'est 89 maintenant, rue de Rome. Aux divers endroits où j'ai dû la dîme de mes minutes, lycée Condorcet, Janson de Sailly, enfin collège Rollin, je vague peu, préférant à tout, dans un appartement défendu par la famille, le séjour parmi quelques meubles anciens et chers et la feuille de papier souvent blanche. Mes grandes amitiés ont été celles de Villiers, de Mendès, et j'ai 10 ans vu tous les jours mon cher Manet, dont l'absence aujourd'hui me paraît invraisemblable. Vos poètes maudits, cher Verlaine, à rebours d'huissemence, ont intéressé à mes mardis longtemps vacants les jeunes poètes qui nous aiment, malarmistes à part, et on a cru à quelque influence tentée par moi là où il n'y a eu que des rencontres. Très affiné, j'ai été 10 ans d'avance du côté où de jeunes esprits pareils devaient tourner aujourd'hui. Voilà toute ma vie dénuée d'anecdotes, à l'envers de ce qu'ont depuis si longtemps ressassé les grands journaux, où j'ai toujours passé pour très étrange. Je scrute et ne vois rien d'autre. Les ennuis quotidiens, les joies, les deuils d'intérieurs exceptés, quelques apparitions partout où l'on monte un ballet, où l'on joue de l'orgue, mes deux passions d'art presque contradictoires, mais dont le sens éclatera, et c'est tout. J'oubliais mes fugues, aussitôt que pris de trop de fatigue d'esprit, sur le bord de la Seine et de la forêt de Fontainebleau, en un lieu le même depuis des années. Là, je m'apparais, tout différent, épris de la seule navigation fluviale. J'honore la rivière, qui laisse s'engouffrer dans son eau des journées entières, sans qu'on ait l'impression de les avoir perdues, ni une ombre de remords. Simple promeneur en yole d'acajou, mais voilier avec furie, très fier de sa flottille. Au revoir, cher ami. Vous lirez tout ceci, noté au crayon pour laisser l'air d'une de ces bonnes conversations d'amis, à l'écart et sans éclat de voix. Vous le parcourrez du bout des regards et y trouverez, disséminés, les quelques détails biographiques à choisir qu'on a besoin d'avoir quelque part. Vue véridique, que je suis peiné de vous savoir malade et de rhumatisme, je connais cela. N'usez que rarement du salicylate et pris des mains d'un bon médecin, la question dose étant très importante. J'ai eu autrefois une fatigue et comme une lacune d'esprit après cette drogue, et je lui attribue mes insomnies. Mais j'irai vous voir un jour et vous dire cela en vous apportant un sonnet et une page de prose que je vais confectionner ces temps à votre intention, quelque chose qui aille là où vous le mettrez. Vous pouvez commencer sans ces deux bibelots. Au revoir, cher Verlaine. Votre main.